Et donc nous avons commencé avec cette expression, dans quel monde vivons-nous? Dans quel monde on vit? Ben, c'est un monde assez violent et les hommes sont dénoncés. Des viols, des agissements sexistes, des violences conjugales, des coups, des féminicides, maintenant on dit, des abus d'autorité, et maintenant on a inauguré autre chose de nouveau, la soumission chimique qui a fait l'actualité ces derniers temps. Alors, est-ce que les hommes sont vraiment si toxiques que ça? Et ce qui est remis en cause et dénoncé souvent, c'est le patriarcat biblique. Alors, c'est une question qui est importante et on va apporter la réponse que l'on trouve dans la Bible. Et c'est une réponse qui est, on va le voir, remplie d'espoir pour les hommes et même pour les hommes violents. Alors, le titre, c'est « L'homme est potentiellement dangereux, mais il y a de l'espérance. » Il y a de l'espérance. Alors, reprenons la suite de notre texte de la semaine dernière. On était donc, on s'était arrêté à cette image. Et Adam et Ève, le premier couple, nos parents, ils venaient d'être chassés du jardin d'Éden, le paradis de Dieu. Ils avaient en effet fait quelque chose qui n'était pas très bon. Le serpent avait séduit Ève. Et l'idée c'était de connaître ce qui était bien et ce qui était mal. Vous serez comme Dieu. Vous serez comme Dieu, avait promis le serpent. Et ils en ont mangé. Ils ont désobéi à Dieu qui avait donné un ordre, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ils se sont vus à cet instant-là misérables, nus. Ils ont voulu se cacher devant Dieu. Mais Dieu, bien sûr, les a appelés et il a posé un jugement sur eux. Et donc, ils ont dû quitter le paradis. Alors nous allons lire la suite de notre texte de la Genèse ce matin. On sera au chapitre 4. Je vais lire dans la version seconde 21. On va lire tout le chapitre 4 et quelques versets, les 5 premiers versets du chapitre 5. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève et elle tomba enceinte et elle mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. Et de son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. Il serra la mine, comme on dit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi serres-tu la mine? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte. Ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu dit alors, « Qu'as-tu fait ? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais, tu es maudit, chassé loin du sol, qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, ma peine est trop grande pour être supportée. Voilà que tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai loin de toi, je serai errant, vagabond sur la terre, et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, afin que ceux qui le trouvent ne le tuent pas. Caïn s'éloigna de l'Éternel et habita le pays de Nod à l'est d'Éden. Caïn eut des relations conjugales avec sa femme. Elle tomba enceinte et mit au monde Enoch. Il construisit une ville à laquelle il donna le nom de son fils Enoch. Enoch eut pour fils Irad. Irad eut Mehujael. Mehujael eut Methushael. Et Methushael eut Lémec. Lémec prit 2 femmes. L'une s'appelait Ada, l'autre Tsia. Ada mit au monde Jabal. Il est l'ancêtre de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il est l'ancêtre de tous ceux qui jouent du bois, de la harpe et du chalumeau. De son côté, Tsia mit au monde Tubal-Caïn. Il forgeait tous les outils de bronze et en fer. Et la sœur de Tubal-Caïn était Naama. Le mec dit à ses femmes, Ada et Tsia, écoutez-moi, femme de Lémec, prêtez attention à ce que je vous dis. C'est que j'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma contusion. Si Caïn est vengé 7 fois, Lémec le sera 77 fois. Ada eut encore des relations conjugales avec sa femme et elle mit au monde un fils et l'appela Seth. Car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils pour remplacer Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il s'appela Enoch. C'est alors que l'on commença à faire appel au nom de l'Éternel. Voici le livre de l'histoire d'Adam, chapitre 5. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit et il les appela êtres humains lorsqu'ils furent créés. À l'âge de 130 ans, Adam eut un fils à sa ressemblance, à son image, et il l'appela Seth. Adam vécut 800 ans après la naissance de Seth, il eut des fils et des filles. Adam vécut en tout 930 ans, puis il mourut. Alors, intéressons-nous à cette première famille. Adam eut des relations conjugales avec sa femme, elle, Ève, et elle tomba enceinte. Bon, il est question de la sexualité ici. Dieu a créé la sexualité et tout ce que Dieu a créé est bon. Il ne faut pas... L'image populaire, parfois, est que le fruit défendu... c'était le fruit de la sexualité. Mais ce n'est pas ce que nous enseigne la Bible. On l'a vu mercredi ensemble, quand on était à l'étude. C'est impossible que ce soit cela quand on lit le verset 3:22. La sexualité est destinée à l'intimité du couple marié, où l'homme et la femme se donnent librement l'un à l'autre avec action de grâce. Et les enfants donc sont tarifés. Et les enfants sont des fois différents et c'est quelque chose qui est incompréhensible. Je crois qu'ils devaient être très surpris, Adam et Ève, devant leurs premiers enfants. Mais à quoi ils vont ressembler ces enfants? Et ils ont eu des enfants différents. L'un va être cultivateur, l'autre va être éleveur. Ils sont sorti du même moule et on va voir, il y en a un qui va s'attacher au Seigneur et l'autre pas. Alors, souvent, les papas et les mamans se culpabilisent par rapport à leurs enfants. mais pourquoi il y en a un qui a pris tel chemin, pourquoi il y en a l'autre qui a pris tel chemin. Mais si le papa et la maman ne peuvent pas sauver les enfants, Dieu peut le faire. Dieu peut les sauver. Ensuite vient la première contrariété. C'est Caïn. Et cette contrariété, elle est d'origine religieuse. Et on s'étonne aujourd'hui qu'il y ait des problèmes avec la religion, que la religion cause tellement de problèmes dans le monde entier. Et il ne faut pas s'étonner de cela, parce qu'on voit que le premier crime qui a eu lieu, il était d'origine religieuse. Le péché salit ce que l'on est et ce que l'on fait, on apprend de cela. Pourquoi Dieu a-t-il agréé l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn? Le texte ne le dit pas. Ça nous rappelle un petit peu cette question du fruit défendu et de la détermination du bien et du mal dont ont voulu se saisir Adam et Ève. Ce que Caïn considérait comme bien, présentait son offrande, elle se considérait comme bien, Dieu le voyait comme mal. Caïn n'était pas d'accord avec Dieu. Et c'était bien là tout le problème de Caïn. C'était là tout son péché. L'expérience de Caïn n'est pas isolée. Beaucoup de personnes expriment des fois leur expérience spirituelle de cette façon. J'ai prié Dieu, je lui ai demandé ceci, je lui ai demandé telle chose, mais il ne m'a pas répondu, alors je n'ai pas été plus loin. Et si Dieu existe, pourquoi il permet ceci? Pourquoi il permet tel drame? Je ne suis pas d'accord, je suis contre cela. Je ne suis pas Dieu. Et dans les deux cas, on retrouve ce désir de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu me refuse à moi quelque chose qui est bon selon moi, auquel j'ai droit selon moi. Et Dieu ne gouverne pas bien le monde selon mes critères. L'expérience de Caïn n'est pas isolée. On apprend que la pratique du bien est salutaire. Et la pratique du mal est le contraire, délétère. Le grand enseignement de ce texte est que si le péché n'est pas brisé, il va en grandissant. Caïn a d'abord été contrarié contre Dieu et il a ensuite tué son frère. C'est comme une mauvaise herbe qu'il ne faut pas laisser s'enraciner le péché, s'enraciner dans le jardin de notre cœur. Il faut lui faire la guerre. Dieu recommande à Caïn de pratiquer le bien selon les critères de Dieu et pas selon les siens. Et cela sera salutaire pour lui. Il relèvera la tête. Mais si Caïn pratique le mal, le péché va le dominer. Il va en être l'esclave. Il ne faut pas ouvrir la porte au mal. Et mercredi, Dieu voulant, on approfondira tout cela. On verra ensemble comment Paul parle de la libération de l'esclavage du péché. Mais hélas, Caïn ne va pas écouter le bon conseil de Dieu. Il ne va pas résister contre le péché. Et le premier malheur est là. Caïn devient un homme violent. Caïn devient un assassin. Il va tuer son frère. Caïn devient aussi un menteur. Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Quand Dieu lui dit, où est Abel? Caïn devient menteur. Caïn est loin de se sentir coupable non plus. pour lui ce que le jugement de Dieu qu'il prononce pour lui, il est trop grand, il est trop fort. Il est centré sur lui-même, il est égoïste, il ne pense même pas à son frère qui est mort, il ne pense pas à ses parents qui l'ont mis au monde. Non. Caïn est égoïste, il est centré sur lui-même, mais on le voit au dernier verset, Dieu est bon. Il va veiller à ce que Caïn soit protégé. Il ne veut pas qu'il y ait de vendetta, de vengeance, et que la mort, la mort, les morts s'enchaînent. Ensuite vient le temps de la première civilisation. Elle commence par le premier éloignement de Dieu. Caïn s'éloigna de l'Éternel et habita le pays de Nod, à l'est d'Éden, le pays du vagabondage. Caïn s'éloigna de l'Éternel. Il s'éloigna. Et c'est quelque chose qui est vraiment un tournant dans notre livre ici. Il va bâtir la première cité. Je ne sais pas comment ils ont fait pour bâtir la première ville. Peut-être qu'ils ont fait comme au Togo. Là, il y a des constructions comme ça. De belles bâtisses en terre. On peut les faire avec les matériels qu'on a. Pas besoin de haute technologie. Les hommes et les femmes n'aiment même pas être seuls. Mais sans Dieu, ils ont bien du mal à trouver la paix. La cité n'est pas une mauvaise chose en soi, car les hommes fidèles, à la fin de la Bible, s'y retrouvent dans la Jérusalem céleste. Donc ce n'est pas le problème d'habiter dans une ville, la première cité. C'est aussi la première polygamie. Le mec prit deux femmes. Alors, elle n'est jamais présentée de façon positive dans la Bible, la polygamie. Elle est incompatible avec la définition du mariage que Dieu a donné. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Impossible avec la polygamie. J'ai en Afrique rencontré un homme qui connaissait bien la culture de la polygamie, et il m'a dit, il y a toujours chez les polygames une femme qui est la femme de la personne, une préférée, et c'est toujours comme ça, toujours comme ça. Pour un homme, satisfaire aux besoins et donner de la joie à son épouse, pour moi, est quelque chose qui est en plein temps. Et pour une femme, maintenir son mari entre guillemets en état de marche, l'encourager, l'aider, le conseiller, c'est aussi quelque chose qui est à plein temps. Il n'y a pas la place pour être plusieurs dans un couple. Un couple, c'est deux personnes. La première polygamie. Les premiers artistes également, premiers musiciens, est descendant de Caïn et Lémec. La musique n'est pas mauvaise pour autant. David a fait des instruments de musique lui-même et c'était un grand musicien. On a chanté des psaumes tout à l'heure. Et puis la première technologie. Le premier technicien ou le premier scientifique était un descendant de Caïn et de Lémec. La technologie n'est pas mauvaise pour autant. Jésus était charpentier, un métier technique. Luc était médecin, c'était plutôt scientifique. Et Paul, lui, était un faiseur de tentes. On a souvent peur de ce que va devenir la technologie. Mais en fait, ce dont il faut avoir peur, c'est de l'homme, c'est du péché, c'est du cœur de l'homme, de ce qu'il va faire avec ce que Dieu lui permet de fabriquer. Et le texte nous propose le premier méchant. Moi, je l'ai appelé le premier méchant, les mecs. Peut-être vous le voyez différemment. Il a pris deux femmes. Et puis, il est un double meurtrier. Il a assassiné un homme et il a tué un enfant. C'est un homme qui méprise la parole de Dieu. Dieu avait protégé Caïn, l'assassin, d'une vengeance. Et lui, il assassine pour se venger d'une blessure qu'il a reçue. Un homme qui méprise la parole de Dieu, un homme qui se prend pour Dieu. Il enseigne à ses femmes non pas la parole de Dieu, mais sa propre parole. Et il détermine ce qui est bien et ce qui est mal dans son propre intérêt. Hein? On pourrait y voir là le prototype du mal alpha, comme on l'appelle des fois, l'homme à qui tout réussit, auquel personne ne résiste. C'est vrai, il n'est pas encore un violeur. Il n'est pas encore de cette trempe-là. Mais le mal n'a pas encore fini de devenir, de grandir. Et on le rencontrera, le violeur, plus loin dans la Bible. Et on en est là parce que Caïn n'a pas voulu suivre le conseil de Dieu. Caïn s'est éloigné de la face de l'Éternel. Mais il y a de l'espoir. Mais il y a de l'espoir. L'espérance d'une autre postérité. L'espérance d'une autre postérité. D'abord, il y a le besoin d'un sauveur. Ève devait certainement aimer profondément ses enfants, Caïn et Abel. Et Ève a dû énormément souffrir de découvrir que son fils était un meurtrier, le meurtrier de son frère. Elle qui avait souffert pour amener Abel à la vie, voilà que son frère lui prend la vie. Il fait le travail inverse. Il retire la vie qu'elle avait donnée à Abel. Caïn, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Tu as offensé Dieu et tu as offensé ta mère. Et je pense que chaque fois qu'il y a un assassinat, un crime violent qui est commis, il y a quelque part une épée qui va transpercer le cœur d'une maman. Qu'as-tu fait? Certainement, Adam et Ève, plus que jamais, ont dû voir qu'à ce moment-là, ils avaient besoin d'être sauvés. La nécessité d'un sauveur pour eux, qui avaient transmis tout cela à leurs enfants, pour la famille de Caïn, pour toute l'humanité et pour nous aussi, parce qu'ils avaient désobéi à Dieu, parce que la famille de Caïn était éloignée de la face de l'Éternel et parce que le sang de Abel crie de la terre jusqu'à Dieu. Besoin d'un sauveur, besoin d'un sauveur. Abel, qui avait la faveur de Dieu, était le mieux placé pour être la postérité de la promesse. Et donc, Ève va avoir un troisième enfant, comme celui qui allait remplacer Abel. Dieu a placé pour moi une autre semence. Dieu est souverain sur la vie. Et Ève avait vu juste, où avait-elle appris la foi? En tout cas, du temps d'Enoch, son petit-fils, on commença à faire appel au nom de l'Éternel. Il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. 7. L'image de Dieu. L'image d'Adam, l'image de Dieu. Et la Bible commence avec une nouvelle histoire, avec Seth. C'est un nouveau commencement. Adam et Ève, quant à eux, vont achever leur course, comme on dit, dans la douleur, la sueur et la souffrance. Ils ont commencé le travail que Dieu leur avait assigné. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, soumettez-la. Et la suite du texte va tracer le cheminement de cette promesse jusqu'à Jésus-Christ. Cette promesse d'un serpent qui allait un jour écraser la tête d'un homme, pardon, qui allait un jour écraser la tête de ce serpent. Ce ne pouvait pas être Caïn, ce ne pouvait être qu'Abel. Abel est mort, mais Seth l'a remplacé. Une longue lignée va suivre, une lignée portée par des hommes de foi, une lignée depuis Seth jusqu'à Noé en passant par Enoch. Noé va se retrouver à un moment donné le seul qui soit agréable à Dieu de 100 ans et en quelque sorte il va sauver l'humanité dans les eaux du déluge avec à l'aide de l'arche. On connaît cette histoire. Sauvé du jugement de Dieu. Et c'est en cela un type de Jésus-Christ qui allait venir. Puis il y a une lignée de Noé jusqu'à Abraham. Et pendant ce temps-là, on voit que le péché a survécu au déluge et les hommes recommencent de nouveau à s'opposer à lui. Et on comprend que le péché est dans le cœur de l'homme. Il est profondément enraciné. Il voyage avec nous dans le bateau. Mais Dieu prend soin de sa promesse et appelle Abraham avec la promesse d'une postérité qui sera une bénédiction pour les familles de la terre. Et puis il y a une lignée d'Abraham jusqu'à Jésus, en passant par les 12 tribus d'Israël, l'alliance au mont Sinaï, le royaume de David. Il reçoit la loi, ce peuple, des promesses de bénédiction, mais il est incapable d'obéir. Encore une fois, malgré la patience de Dieu et les appels des prophètes, au fur et à mesure des pages de la Bible, le portrait du Messie va se préciser, s'affiner. Le lecteur comprend de quel sauveur il a besoin. Et vers la fin de l'Ancien Testament, on retrouve même en quelque sorte un remake de ce qui s'est passé au chapitre 2, 3 et 4 de la Genèse. Alliance, bénédiction, désobéissance, jugement et assassinat de celui qui est agréable à Dieu, Jésus-Christ. Le Messie attendu est né. Né d'une vierge d'Israël, Marie, fille de Ève. Il va écraser la tête du serpent en mourant à la croix. Il va sauver son peuple de ses péchés par sa mort et sa résurrection. Et il va être une bénédiction pour toutes les familles de la terre et nous jusqu'à présent. Et si vous voulez comprendre ce qu'est la foi, le chapitre 11 résume que toutes ces personnes par qui la promesse depuis Seth jusqu'à Jésus a circulé parmi les hommes, on retrouve la foi. Jésus est le nouvel Adam. Il va naître dans l'étable, il va faire des miracles, il va enseigner à des foules, il va confier la suite du travail à ses disciples, il va mourir sur la croix et il va ressusciter des morts. La Bible parle de lui comme un nouvel Adam qui va amener une nouvelle vie et cette nouvelle vie, quiconque est invité à la saisir. Et même si on se voit plutôt comme un Caïn que comme un Abel, cette nouvelle vie va nous transformer et faire de des Caïns que nous sommes des Abels qui sont agréables et agréés par Dieu, par son Fils, Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile jusqu'à présent. Alors, par rapport à mon introduction et le problème de ces hommes qui semblent si dangereux, on l'a vu dans cette histoire, combien les hommes peuvent être dangereux. C'est le péché qui est à l'origine du mal. Plus le péché augmente, plus le mal augmente. Plus les hommes s'éloignent de Dieu, plus le péché augmente, plus le péché augmente, plus les hommes deviennent dangereux et font le mal. C'est la description de l'homme qui est faite à travers la Bible au fur et à mesure des pages. Le péché voyage dans le cœur de l'homme, c'est bien ça le problème. Comment faire pour s'en débarrasser? L'homme en conflit avec Dieu est dangereux et en danger. Il est dangereux pour les autres, on l'a vu. Et j'ai parlé de cette actualité qui nous rappelle cela, avec raison. Le mal doit toujours être dénoncé pour ce qu'il est. Il est dangereux pour les autres, cet homme-là. Il est dangereux. Il est aussi en danger lui-même. Les hommes détiennent des records de misère. Ce sont les plus présents parmi les SDF. Ce sont ceux qui ont le plus haut taux de suicide. Ce sont les plus victimes de meurtres. Ce sont ceux qui se droguent le plus. Ce sont eux qui ont le plus de maladies mentales, ce sont eux qui sont le plus en prison, ce sont eux qui sont le plus touchés par le chômage, ce sont eux qui ont les métiers les plus difficiles, ce sont eux qui ont le plus d'accidents de travail ou qui meurent même dans leur travail. L'homme, loin de Dieu, est en danger. Alors la question se pose pour beaucoup, mais est-ce que les femmes là seraient pas une meilleure alternative aux hommes ? Alors les femmes, c'est vrai, sont peu présentes dans la Bible, beaucoup moins que les hommes, parce qu'elles sont auprès des hommes, elles sont unies aux hommes par le mariage, et leur rôle est plus discret, il est surtout auprès de leur mari, étant des aides, des secours, des vis-à-vis dont ils ont besoin. Mais il n'empêche, on voit que dans l'histoire d'aujourd'hui, c'est Ève qui est l'héroïne du chapitre 4. Elles sont elles aussi capables de leadership, comme les hommes. Mais le résultat dépendra, comme les hommes, de leur attachement à Dieu. Il y a de très beaux portraits de femmes leaders, comme Déborah, qui a pris la relève des hommes de son temps, parce qu'il n'y avait aucun homme qui voulait se lever pour s'opposer, pour ramener le peuple à Dieu et pour s'opposer aux envahisseurs. Son histoire est en Juges, chapitre 4 et 5. Il y a également la reine Esther qui a été proche de se sacrifier, d'exposer sa vie pour que tout le peuple puisse être sauvée, comment Dieu est intervenu et comment Dieu à travers elle a sauvé le peuple d'Israël à ce moment-là d'un génocide. C'est le livre d'Esther qui porte son nom. Ça, c'est les exemples des femmes qui ont été proches du pouvoir, positives, mais il y a aussi des contre-exemples. Une autre femme proche du pouvoir était Jézabel. Et avec elle, là, ça a été la catastrophe. Elle est tristement, tristement célèbre pour être celle qui amène les hommes vers l'idolâtrie. Elle a amené son mari vers l'idolâtrie et elle a amené tout le peuple d'Israël à l'idolâtrie de son temps. Et il y a pire encore, dans la reine Athalie, elle avait les pleins pouvoirs par contre. Et c'était une femme qui a fait beaucoup d'assassinats, qui a assassiné sa propre famille et même assassiné ses propres enfants, sa propre descendance. tant elle était avide de pouvoir. La reine Athalie, vous trouverez son histoire en 2 rois 11, et pour Jézabel, ça c'est le point culminant est en 1 roi 21. Les femmes, comme les hommes, ont besoin d'être sauvées. Et c'est quand les hommes et les femmes sont ensemble, sont unis, où chacun est à sa place, qu'ils seront alors épanouis. Les femmes, comme les hommes, ont besoin d'être sauvées. Je voudrais dire un mot sur le célibat, profiter, parce qu'on a beaucoup parlé de mariage toutes ces dernières semaines. Et le 21e siècle mène la vie dure aux célibataires, surtout ceux qui veulent garder leur pureté sexuelle. La vie sociale est en effet compliquée et fabrique beaucoup de célibataires. Tant les relations entre les hommes et les femmes se sont complexifiées. La sexualité est élevée au rang d'une idole, indispensable à connaître. Cela crée des frustrations bien inutiles. Toutefois, Paul précise dans la parole de Dieu, et tous les couples le confirmeront, que la vie de couple n'est pas un paradis. Et Paul trouve bien des avantages au célibat. Voir 1 Corinthiens chapitre 7 pour cela. Je pense que le cadre communautaire de la famille et également de l'Église va pouvoir permettre à un homme d'être pleinement homme, à une femme pleinement femme, même s'ils n'ont pas d'enfant, même s'ils ne connaîtront jamais l'intimité d'un couple, ils pourront quand même être des hommes et des femmes à part entière dans une communauté. Une autre remarque, c'est que la civilisation de Caïn ressemblait étrangement à celle où nous vivons. Mais Jésus est là. C'est la grande différence. Notre culture est loin de la face de l'Éternel. Elle est très urbanisée, des grandes villes. Il y a beaucoup de technologies. Ça qui tient énormément de place dans notre monde, dans notre vie de tous les jours. Et il y a aussi de la culture, de la musique. J'ai regardé ce que voulait dire le mot zénith. C'est le haut du ciel. On a appelé les salles de musique des zéniths parce que c'était le haut du ciel. Et notre culture est également violente et insécurisée. On nous le rappelle tous les jours. Avec toutes sortes de pratiques sexuelles qui se déroulent en dehors du cadre du mariage. Notre civilisation ressemble à celle de Caïn, mais Jésus est là. Et Dieu nous demande de croire en lui, son sacrifice qui a été agréé par Dieu. Par son sacrifice, nous sommes pardonnés, lavés, purifiés du mal pour une vie nouvelle. Et plus tard, retrouver le paradis de Dieu. Qu'est-ce que Dieu demande ? De nous détourner de notre vie de Caïn, de nous tourner vers son Fils, Jésus-Christ, le Messie promis, le nouvel Adam, et de recevoir par notre foi en Jésus le pardon et la réconciliation avec Dieu. La civilisation de Caïn ressemble à celle où nous vivons, mais Jésus est là. La foi de Abel ressemble à celle que nous confessons. Exprimer à Dieu notre reconnaissance par Jésus-Christ, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure pendant notre culte. Accomplir les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Offrir à Dieu nos mains, nos vies, nos cœurs. La foi de Abel ressemble à celle que nous confessons. Caïn a tué Abel, mais Seth l'a remplacé. Est-ce que notre culture va revenir vers Dieu ou au contraire, est-ce qu'elle va toujours plus s'éloigner de lui et poursuivre dans son chemin de péché? Est-ce que l'on va aller assister jusqu'à l'extermination de la foi chrétienne à lever tout ce qui est dans notre société, ressemble, évoque la parole de Dieu et ses commandements. Peut-être, mais Dieu est là. Caïn a tué Abel, mais Seth l'a remplacé. Il n'y a pas de souci à se faire, même si nous devions être exterminés. Ayons confiance en Dieu. Lui-même fera lever une nouvelle génération. Alors, quelques applications. Il y a une belle application quand on voit toute cette lignée de personnes. C'est d'être des passeurs de la promesse de Dieu. On reçoit la promesse de Dieu quand elle se présente à nous. Le message de l'évangile. Je saisis cette promesse. Je demande pardon des fautes et je reçois une vie nouvelle en Jésus. Crois en Jésus et tu seras sauvé, a déclaré Paul au geôlier. La recevoir et la transmettre. Donner cette bonne nouvelle à un autre. Passer le relais, passer le témoin, passer l'information. Tant que nous sommes sur cette terre, avant que comme Adam, nous revenions à la poussière. Soyons des passeurs de la promesse de Dieu. N'ouvrons pas la porte au péché. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas commencer, comme on dit. La cigarette, il ne faut pas commencer. La pornographie, il ne faut pas commencer. Et si on a fait un faux pas, immédiatement, on fait demi-tour, on s'éloigne, on ne laisse pas le péché prendre racine dans notre cœur. N'ouvrons pas la porte au péché, c'est une application. Soyons fidèles à Dieu jusqu'à la mort. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre Abel et Caïn, comment ça s'est passé cet assassinat-là, mais la parole de Dieu est claire. Certains doivent donner leur vie et leur sang doit couler à cause du message de l'évangile. Soyons fidèles jusqu'à la mort. Rappelons-nous que nous ne sommes pas le Messie également. Ce n'est pas nous qui pouvons sauver. Celui qui pouvait sauver, c'est uniquement la postérité. Il n'y en avait qu'une et il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait le faire, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc nous ne sommes pas des sauveteurs. Le sauveur, c'est Jésus. Femme, est-ce que tu pourras sauver ton mari? Marie, est-ce que tu pourras sauver ta femme? Non, mais Dieu le peut. Dieu le peut. Et nous pouvons prier. Et nous pouvons prier. Nous pouvons lui demander. Nous pouvons intercéder. Je ne sais pas si c'est ce qu'a fait Ève ou pas quand elle a eu Seth. Mais on peut prier. J'ai une application pour les hommes également. Comment vivre, comment être, quel modèle prendre de vie. Je ne suis pas le seul à vous proposer ça. On en avait déjà parlé à une réunion autour de la Bible avec Tim. Abel nous laisse l'exemple. Il était un berger. Un berger, c'est quelque chose de plus que le jardinier. Le jardinier, on a vu toutes les qualités qu'il lui fallait. Être observateur, être au soin de son jardin, enlever les mauvaises herbes, le faire et le rendre beau et agréable pour Dieu. Le berger, lui, doit faire quelque chose. Il doit faire tout ça, il doit observer. Il doit travailler avec le temps long, mais il doit faire quelque chose de plus. Il doit protéger. Il doit être un protecteur, celui qui protège. David était berger avant d'être roi. David s'est opposé au lion. Il s'est opposé à l'ours qui venait détruire le troupeau. Il s'est élevé contre cela et avec la force que lui a donné Dieu, il a mis en déroute le lion et l'ours. Le berger, il est protecteur. Le berger est également nourricier. C'est lui qui doit conduire là où se trouvent les pâturages. Il peut conduire sa famille pour avoir les conditions de tout ce qu'il faut pour la vie de tous les jours. Et il y a également un besoin de bienveillance. J'ai demandé à mon père qu'est-ce que c'est la qualité d'un bon éleveur, parce qu'il a été éleveur. Et il m'a dit, ben, il faut que les animaux dont tu t'occupes, il faut qu'ils soient bien. S'ils sont bien, ils grandissent bien et tout va bien. Il faut qu'ils soient bien. Et on doit veiller à ce que les animaux soient bien. Et un homme doit veiller, non pas sur des animaux, mais sur sa propre famille, pour qu'elle soit bien, pour qu'elle grandisse bien, qu'elle puisse se développer. Et il y a aussi un autre aspect, pas l'aspect que l'aspect matériel, il y a l'aspect spirituel aussi. On a vu que les hommes avaient une responsabilité par rapport à cela, de transmettre la parole de Dieu. Nos épouses, nos enfants, Dieu nous les a donnés, ils sont de Dieu. Dieu nous donne sa parole pour, et nous devons également veiller à ce que il y ait également de la croissance spirituelle dans nos familles, que nos familles grandissent spirituellement et qu'elles s'épanouissent dans le Seigneur également. Tel qu'Abel, soyons des bergers, c'est tout à fait opposé au mal alpha. Il faut de la bienveillance. Si vous êtes occupé d'animaux, les animaux ils sont libres, hein. Ils accepteront que vous occupiez d'eux seulement s'ils se sentent, si vous êtes bienveillant envers eux. Sinon, ça va jamais le faire, ça va jamais marcher. À combien plus dans nos familles, la bienveillance du père de famille pour chacun est capitale. Recherchez le bien et, quand il le faut, la protéger. Je m'arrête là. On va avoir le temps de chanter le chant Amazing Grace, grâce infinie de ce Dieu grand qui fait de Caïn, qui a fait des Abel à partir de Caïn. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour les choses très simples que tu attends de nous. Nous confier en Jésus. Croire dans son sacrifice à la croix. Marcher humblement avec lui et à sa suite, prendre soin de ce que à chacun tu nous as confié, le recevoir comme venant de toi, tout ce que nous avons, et partager également cette promesse, ce dépôt que tu confies, le confier à d'autres jusqu'à ce que tu reviennes. Dans le nom de Jésus.